Erev Tov, les Koulam, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, parce qu'on a eu une grosse afsaka, une trêve estivale, non pas estivale, hivernale, c'est ça. Voilà, Hanouka, les voyages, machin, Bekitsour. Maintenant, on est revenu. Et donc, on revient dans notre étude du livre de Shemot, mais avant, j'avais un message à faire passer. Je me suis dit, est-ce que je vais faire une petite vidéo spéciale juste pour ça? Peut-être, mais je vous le balance comme ça. Ça m'a pris comme ça aujourd'hui. Dans le Daf HaYomi d'aujourd'hui, donc dans la page quotidienne d'études du Talmud, nous sommes donc arrivés aujourd'hui dans le traité de Megillah à la page 7, et j'ai lu une phrase intéressante. Alors je vous la lis, vous allez me dire, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais vous allez comprendre. On dit comme ça, il y a un verset dans Shemot qui nous dit, donc comme ça c'est quand même relié, Ktov zot zikaron basefer. Écrit cela comme un souvenir dans le livre. Et l'enseignement de Rabbi Elazar Amodei, Rabbi Elazar Amodei Omer, Ktov zot mashekatuv kan, ou ba Mishnah, Torah zikaron mashekatuv ba Neviim, basefer mashekatuv ba Megillah. C'est pour nous expliquer d'où on sait qu'on peut écrire la Megillah en tant que texte qui rentrera dans le canon biblique. Alors, comment est-ce qu'on peut se permettre d'écrire un truc après, a priori, la période prophétique? Eh bien, en fait, on te dit non. En fait, c'était déjà marqué dans Shemot qu'il y a un truc qui est, on va dire, une place qui est réservée à la Megillah. Bon, voilà, ça c'est pour l'enseignement. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que c'est l'enseignement de Rabbi Elazar Amodei. Eh bien, exactement. Moi, ça m'émeut de savoir que j'habite la rue de Rabbi Elazar Amodei. Voilà, j'habite Rehov Rabbi Elazar Amodei. Eh bien, les amis, moi, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir me balader dans ma rue. J'arrive chez moi et j'habite là où a vécu un des grands, grands, grands Tanaïm. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on poursuit une tradition. On vient de France et on se rappelle dans quelle rue on habitait quand on habitait en France. Il y en a qui sont plus parvés, il y en a qui sont moins parvés. Moi, en France, j'habitais 170 rue du Pré-Gournat.
Oui.
A priori,
on voit
ça.
Que
pas trop sexy.
Beaucoup de synagogues, c'est rue.
Ah, ben alors voilà, évidemment, quand tu prends des synagogues, rue, comment on dit, Notre-Dame de Nazareth, machin, c'est sûr que c'est un autre.
Bonaparte, à
autre
votre
histoire.
Que l'entrée de la synagogue se trouve sur la rue Lafayette, c'était une trop grande rue, c'était trop beau.
Ah, ben c'est ça. Bekitsour, quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de pouvoir se balader, par exemple, à Baka, dans les rues Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun. On n'y pense pas, c'est des petites choses, mais Zégadol, Zégadol. Non, j'espère pas, c'est-à-dire que je serai mort. Ah, ça serait un beau jour pour toi! Pourquoi? Et Triat HaMetim dans tout ça? Et Triat HaMetim? Ma? Et Triat HaMetim? Allô? Peut-être Triat HaMetim, c'est demain, qu'est-ce qu'il y a?
Si tu le tapes un peu.
Ah là là, tout de suite. Si j'avais été Ashkenaz, je l'aurais peut-être bien pris. Top, les kits sont, oui.
Donc tu n'es pas loin de l'appartement de mon ami, le Rav Avraham
Avinu. Je suis
Il habite au
pas, je suis pas seulement pas loin, je suis en face. Je suis son voisin.
Tu es sur le trottoir?
Non, pas le trottoir, à côté, maman. On se voit de Mirpesset à Mirpesset.
Ah, on commence?
Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on peut rentrer dans notre étude du livre de Shemot. Chapitre, si je ne m'abuse, chapitre Kafret, verset. Iné, je vais vous dire exactement, je me rappelle exactement où on s'était arrêté. Verset Lamed Chet. Donc, chapitre Kaf Chet, verset Lamed Chet. Ok? C'est-à-dire, page 133 pour ceux qui auraient un livre comme celui-là. Ah, sinon c'est 134. Oui? Verset, chapitre Kaf Chet. Oui, et Vaya al-Metzach Aaron. On avait terminé d'étudier les Bgadim des Kohanim. Okay, c'est sur ça qu'on était arrêté. Bigde Akeuna. Bah, tu n'étais pas là.
Ah, voilà,
j'ai réécouté le cours, il n'y a pas eu de question sur Rabbi Nachman. Donc, tu
là.
N'étais pas là. Donc, on a parlé des Bgadim des Kohanim. Je rappelle, c'était le 42e cours sur le livre de Shemot. On a parlé des Bgadim des Kohanim, on a terminé avec le Tzitz. Le dernier des 8 habits du Kohen Gadol. Un Kohen normal, il a 4 habits. Kohen Gadol, il a 4 habits en plus. Et on a terminé par le Tzitz. C'était quoi le Tzitz? C'est ce diadème que porte le Kohen Gadol, avec marqué quoi dessus? Kodesh Lachem. C'est-à-dire, Agav, il y a une machloquette dans la halakha. Est-ce que c'était une couronne ou un diadème? C'est-à-dire, est-ce que c'était entier ou est-ce que c'était demi? Eh bien, au Machon Amigdash, comme ils ont reçu une trouma, ils ont fait les deux.
Et
une couronne, enfin, peut-être que je me trompe au niveau du français, mais j'entends par couronne un truc qui fait tout le tour de la tête, ou alors est-ce que c'est simplement un demi-cercle qui est posé et tenu par un fil?
Une couronne,
ouais.
Sur le plan de la sainteté, c'est plus élevé que le diadème.
Alors,
sur le plan de la sainteté.
L'odeur.
Ma fille, elle appelle
ça la cachette. Ah, si, elle cachette. Non. En tout cas, vous aurez compris, Zéatzitz. Et nous dit ici la Torah, Vaya al mitzro. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. Et on s'était arrêté sur la fin de ce verset. והיה על מצחו תמיד, לרצון להם לפני השם. Et là, on avait simplement amené la question, on s'était arrêté sur la question, comment est-ce possible, והיה על מצחו תמיד? הרי le Kohen Gadol ne peut porter ses habits de Kohen Gadol que au Beth Amikdash.
Oui.
Lorsqu'il sort du Beth Amikdash, parce qu'il rentre chez lui, je sais pas, il va à une Brit Mila, il va à une Bar Mitzvah, je sais pas quoi, eh bien, il n'a pas le droit d'être en habit de Kohen Gadol.
Il est
habillé normal. Non, il met son survêt. Il met son strimel, bien sûr, bien sûr. Donc, comment est-ce possible qu'il y ait marqué Vaya al Mitzro Tamid, Sheare, Zelonachon? C'est pas vrai. Il n'est pas tout le temps avec son titre.
Non, mais constamment pendant son service.
Ah, toi, tu dis, tu rajoutes des mots qui ne sont pas marqués pendant son service. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Là, il y a marqué, il doit l'avoir tout le temps.
Qu'est-ce que dit Rashi?
Alors, nous dit Rashi. Attends, deux secondes, il me demande qu'est-ce que dit Rashi.
Le pasouk la mettre, c'est ça?
Attends. Vaya al mitzro tamid. Il est possible de dire qu'il y a al mitzro tamid, car il n'est pas alav, elle a beshat avoda, elle a tamid, le ratzot lehem afilu, il n'est pas al mitzro. Shelo haya kohen gadol oved beota sha'a. Le divrei haomer odeu al mitzro, mechaper omeratze, veim lav, il n'est pas meratze. Nidrash al mitzro talmid, melamed shemeshamesh bo beodo al mitzro, shelo yasir da'ato mimenu. C'est-à-dire, non, il ne le prend, il le porte pas tout le temps, mais même lorsqu'il ne le porte pas, il doit penser qu'il ou il le porte. C'est-à-dire que M. Kohen Gadol, même quand il ne bosse pas, il doit se sentir Kohen Gadol.
Tout le monde sait qu'il est Kohen Gadol, donc...
Ce n'est pas pour les autres. C'est pour lui.
C'est une sorte de Tidouch HaShem, non?
Alors, à quoi ça sert le Tzitz? Ça sert de savoir que tu as tout le temps quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est Kodesh Lachem, que chaque chose que tu vas faire doit être rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et bien alors, évidemment que quand tu portes le Talit, ou quand tu portes le Tzitz, ou les Tfilin, alors tu te rappelles que tu es en relation avec Dieu. D'accord ? Quelqu'un qui porte son Talit sur la tête, c'est plus facile pour lui de se rappeler qu'il est avec Dieu que quand il est en train d'être au boulot, en train de se prendre la tête avec son chauffeur de taxi. Nous dit la halakha, d'abord dans le Talmud, dans le traité de Menachot, dans la halakha. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens à la synagogue le matin qui ont une manie ou un tic à se toucher les tefilines toutes les 5 secondes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont même le tic avec le miroir qui va avec. Et toutes les 5 secondes, ils se regardent pour savoir si c'est bien mis. Alors, au-delà du tic, il y a un inyan de les mashmesh batfilines. De toucher ces tefilines.
Oui, dans le schéma.
Non, pas que dans le schéma. Michlal, pendant que tu les as. Lama, pour que même lorsque tu les aies pas, tu sens que Keilou, tu les as. Ça devient quelque chose qui est du domaine du permanent chez toi.
Dans certains sourires, le séfarade en particulier, il y a des tefilines, tefilines,
tefilines,
sur chaque page.
Ah bon?
Oui.
Voilà. Donc, chez elle, oui.
La même chose quand on est à la bannière.
Non.
Parce qu'il y en a beaucoup plutôt que de faire ça, je vais pas faire ça.
Non, je sais pas, c'est une bonne question. Il faudrait poser la question au rabbin à grande barbe, pourquoi ils touchent la barbe. Demande à Rabbi Nachman ce qu'il en pense. C'est-à-dire, quand je parle de tfilin et que je fais la comparaison avec le tzitz, c'est pas stam. La Gemara dans Menachot là-bas, elle nous fait cette comparaison-là. Elle nous dit, Uma tzitz, il y a marqué pour le tzitz, Vayal mitro tamid, alors qu'il n'est pas tamid. Et il y a marqué une seule fois le nom de Dieu dans le tzitz, Kodesh Lachem, le Yudke Vavke. Dans les tfilin, il y a marqué plein de fois le nom de Dieu. A la Chatkama Vechama, donc a fortiori, il doit les ressentir tout le temps sur lui. Oui.
Il y a des situations où il ne faut mieux pas qu'il pense à ça, des endroits qui sont impurs.
Ah, tu dis, Bimrila Lichvodi, il y a des endroits où il n'a pas le droit d'être avec cette tfilin, il ne doit pas penser à ça. Nachon, tu as raison. Aval, et là je dis un gros aval. Ben Adam, un homme qui est kadosh, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller souvent dans ces endroits-là?
On est des êtres humains.
Nachon, on est des êtres humains. Nachon, tu as raison. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de manière générale, quelqu'un qui se nourrit comme il faut, qui fait attention à son corps comme il faut, il va dans ces endroits-là, de manière très restreinte, et effectivement, pendant ces moments-là, où Kovesh est Atmo, de ne pas penser à ça. Nachon, c'est Klisha. C'est quelqu'un qui doit faire un kibouche. C'est pas facile.
Kovesh, c'est...
Il arrive à conquérir son penchant de penser à Torah, de penser à Dieu. C'est pas facile. Il y a certaines personnes, mais c'est caché même de ne pas penser à Dieu. C'est caché. Alors, je vais te dire que les choses soient bien claires devant les millions de téléspectateurs dans le monde entier. Je ne suis pas encore un Ish Kadosh. Ok ? Que les choses soient bien claires. Je vous dis simplement qu'à mon niveau extrêmement bas, eh bien, dans ces endroits-là auxquels tu fais référence, ma femme ne comprenait pas pourquoi j'avais tout le temps du bruit. À chaque fois que je vais dans ces endroits-là, je mets une musique ou une vidéo sur mon téléphone. Pas que... Alors, des fois, j'écoute, des fois, je regarde, mais pas que ce soit tellement... C'est surtout qu'il y ait du bruit, même quand je suis dans la douche. Bimrila l'irvotra. Je ne me douche pas pendant Shabbat. Ah non, alors, effectivement, c'est pour ça. C'est pour ça, si tu veux tout savoir, que j'ai l'intégrale d'Astérix proche de cette pièce-là. C'est justement pour le Shabbat. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Nahon, c'est caché. Parce que tous les jours, je pense au cours que je vais donner dans le même jour. Et donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour me poser et réfléchir. En général, dans ces endroits-là, tu as le temps. Donc, pour ne pas penser à ça, je mets du bruit. Ça va ? Maintenant, il y a des gens pour qui ça ne suffit pas de mettre du bruit. Ils doivent se contrôler et ne pas penser à ça. Mais de manière générale, bah, il y a le mitzvot tamid, même lorsque tu ne l'as pas. Et ça, ce n'est pas facile. Zelo pashut. Comment est-ce qu'on fait pour être constamment en contact avec Akadosh Baruch Hu ? Alors, Maaseh Shehaya Kachaya. Ok, je vous raconte l'histoire officielle de cet homme, chassid, qui est parti voir son rebbe. Alors, le rabbi en question, on parle de Rabbi Israël de Rougine, un des grands maîtres de la chassidoute, et donc un de ses élèves, un jour, va voir son rabbi. Ça met des jours et des jours avant d'y arriver, et il y a au milieu Shabbat. Donc il s'arrête dans la ville dans laquelle il était, et il arrive à la synagogue pour Shabbat. Le rabbin de la synagogue faisait partie de ce qu'on appelait les mitnagdim, anti-chassidim. Il voit cet homme qu'il ne connaît pas prier avec ferveur dans la synagogue, il l'invite pour le repas de Shabbat. Et après avoir discuté de halakha, de Talmud, de Agada, machin, il a kiffé parler avec cet homme-là qu'il ne connaissait pas et lui dit mais où vas-tu ? Et le chassid lui répond qu'il va voir son rabbi. Et là, le rabbin lui dit pauvre gosse. En hébreu, on dit « neber ». Et on lui dit « Quoi ? N'y a-t-il pas dans la région quelqu'un de suffisamment grand en Torah pour qu'il devienne ton rave ?» Le rabbin pense à lui-même. Et le chassid lui répond « Écoute, je vais voir mon rabbi parce que mon rabbi n'oublie jamais Dieu. » Et le rabbin lui dit « Comment ça ? Et les autres, ils oublient ?» Il dit « Bah oui !» Par exemple, moi, j'oublie. Il dit, okay. Et il lui dit quoi ? Tu lis dans les pensées ? Et le chassid lui dit, bah oui, teste-moi. Il dit, ok, très bien, je te teste. À quoi je pense maintenant? Et là, le chassid réfléchit et lui dit, tu penses au Tehilim qui dit, Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Je placerai Dieu devant moi toujours. Et le rabbin lui dit, pas du tout, je pense à un Tosfot que j'ai étudié ce matin dans le traité de Menachot. Et le chassid lui répond, ah bon? Tu n'es pas en train de penser maintenant à je placerai Dieu devant moi toujours? Ben, tu comprends pourquoi je dois aller voir mon rabbi.
Oh là là.
Et Rabbi Israël de Rougine enseigne cela à son petit-fils, le rabbi de Oussiatin, Rabbi Israël Meoussiatin, qui explique la différence entre Zachor, la mitzvah de Zachor, de Zechira, et de Lo Tishkar. Il y a une mitzvah à Purim, Lo Tishkar. Il dit, ben voilà, Zachor Zebe Maasim. Ma Zachor, c'est quand tu touches tes tefilines, quand tu touches le tzitz. Lo Tishkar Zebe Aya Al Mitzro Tamid. Cette dimension de quoi qui se passe, tu es en contact avec HaKadosh Baruch Hu. C'est tout un travail. C'est à force de Zachor que tu peux arriver à Lo Tishkar. Bekitsur Vaya Al Mitzro, donc Tamid Le Ratzon Laem Lifnei Hashem. Veshibat Sta Kutonet, hein? Oui, mais à ce moment-là, ton mari va être un petit peu déçu, parce que, ou alors il va se prendre pour Dieu, ça c'est un problème. Veshibatzta kutonet shesh vasita mitznefet shesh vavnet taase maaser okem. Velivne aaron taase kutonot vasita lahem avnetim omikbaot taase lahem lechavod oltifaret. Donc on conclut ici tous les habits, et on a dit à quoi servent les habits des Kohanim? Lechavod ou letifaret. C'est-à-dire en français? Waouh!
Letifaret, c'est la gloire.
Rochem. L'esbrouf, comme on dit. Exactement. Le but des habits des Kohanim qui ont la classe, c'est pour que les gens qui les voient se disent waouh. Zéro. C'est rachouf. On s'émeut devant plein de choses dans notre monde du 21e siècle qui ne sont pas forcément reliées à la Kedusha. C'est pas mal de s'émouvoir devant Mar'ot Shel Kodesh. Ok? On est au pasouk même Aleph. Ve'il bashta otam et Aaron achicha ve'et banav ito umashachta otam umileta et yadam ve'kidashta otam ve'chianu li. On intronise ici les Kohanim. Ve'aseh lahem michnesei bal lechasot basar erva mimotanaim ve'al irachaim yiyu ve'ayu al Aaron ve'al banav ve'voam el ohel moed o begishtam el hamizbeach lesharet bakodesh. ולא יישאו אבון ומתו חוקת עולם לו ולזרו אחריו. נכונה איסי תרמיני לסטואר דה זבי. מנא אילטן דה לנסה לפרוסדור דה מיזן פונקציון דה כהן. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לקדש, זה בדיר כתבון את רמתנו, ספרי. מה זה קדושה? זה נבדל. Kadosh, ça veut dire séparé d'ici. Kedoshim tiyu. Ok? À Kadosh, on pourrait penser à tort qu'il doit se couper du monde. Non, il est complètement dans ce monde. Et pourtant, il a une dimension au-delà de ce monde. D'accord? Le Kadosh n'est pas le parouche. Chez les chrétiens, les saints sont ceux qui sont dans les monastères loin, 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 qui n'ont pas de contact avec ce monde. Ou alors qui ont vécu une vie d'ascétisme terrible. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'idéal à être détaché du monde.
Dans les chrétiens, j'aime pas tellement les prochimes.
Il n'aime pas les prochimes de chez nous. Mais il n'y a pas d'idéal chez nous de l'ifrosh minaola. Ah, comment est-ce qu'on... Non, c'est pas être séparé tout en étant. C'est être dedans tout en étant au-delà. Comment on fait? Eh bien, pour arriver à cela, il faut se séparer. Ça veut dire quoi? Dans le livre Messilat Yesharim du Ramchal, il y a une étape qui s'appelle la Prishut, où je m'éloigne de ce monde. C'est une étape, ce n'est pas un idéal. Pour comprendre qu'est-ce qui peut être dangereux dans ce monde et qu'est-ce qui, au contraire, me rattache à Dieu... Et ensuite, je reviens dans ce monde, je suis complètement impliqué dans ce qui se passe ici, et à chaque action qui semble être parvée, je lui donne une dimension de Kodesh. Ok? Donc, Vekidashta לקדש אותם צריכה לך אין לי, לקח פר אחד בן בקר ואילים שניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן, וקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם. ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת השני האילים, ואת הארון ואת בניו, תקריב אל פתח או אל מועד, ורחצת אותם במים. De la même façon qu'il y a une akravat korban, il y a une akravat à Kohen. C'est-à-dire que jusque-là, on a dit que le Kohen, bon, on le met là, on lui donne des habits extraordinaires, ce que tu veux. Mais il y a une dimension de akrava quand tu es Kohen. C'est quoi cette dimension de akrava? Eh bien, il y a plein de choses auxquelles tu renonces. À quoi tu renonces, par exemple, quand tu es Kohen?
Avec une
bah, par exemple, te marier avec une divorcée.
Convertie.
Convertie. Par exemple, mais pas, vous êtes que dans le domaine du mariage.
Les cimetières.
Voilà, je vais pas aller dans les cimetières pour les proches. Alors, quand c'est un Cohen normal pour les 7 proches, oui, mais Cohen Gadol, même pour tous ses proches, il ne peut pas y aller.
Même pour ses parents.
Même pour ses parents, même pour sa femme, sa fille, son fils.
Il n'a pas
le
droit d'aller prier sur la tombe
d'un foule
dans un cimetière aussi.
Ok. Hein? Non plus. Non. Les seuls pour qui il y a Marloquette, est-ce qu'il peut y aller ou pas, hein, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Verachel Imen. Vesara Rivka Velea. Rabbi Nachman, ça ne marche pas. Cohen, il ne peut pas aller sur la tombe de Rabbi Nachman. Malas. Hein?
Qu'est-ce qu'il réfère?
Qu'est-ce qu'il réfère là-bas? C'est ça. Non, peut-être qu'il était en voyage pour arriver en Israël. Et la diligence s'est arrêtée devant la tombe de Rabbi Nachman. C'est jamais. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Mais ça veut dire que la Kedusha du Kohen est plus grande que la Kedusha de Rabbi Nachman. Malasot. Malasot. Non, mais la dimension de la Akriv, Zechashuv. Nachon, le Kohen, on le met sur un piédestal. Bémet, on le met sur un piédestal. Vous avez parlé que du troum du mariage, on a parlé des enterrements. Il ne peut pas aller travailler. Ben non, il a un autre boulot. Quoi? Tu connais des Kohanim qui bossent?
Quand il est pas là, il fait
temps. Non, mais ça veut dire, normalement, il ne peut pas aller travailler, il n'a pas le temps. Puisque soit il bosse au Beth Amikdash, soit il enseigne au peuple juif. Mais donc on lui dit, t'inquiète pas, on t'a prévu une parnassa. Troumot, Maasrot, Matnot Keuna. Enfin, Maasrot, c'est pas pour lui, mais Matnot Keuna. Donc, il a quand même un sentiment clair de séparation avec les autres.
Et c'est le seul, les autres peuvent travailler quand ils ne sont pas en service.
Mais ce que je viens de dire, quand il n'est pas en service, il fait quoi?
Non, les autres ne sont pas en service.
C'est qui les autres? Les autres qui?
Les autres Kohen.
Alors c'est ce que j'ai dit, quand le Kohen ne bosse pas au Beth Amikdash, qu'il n'est pas en service, son rôle, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif.
Kohen Gadol.
Non. J'ai pas parlé du Kohen Gadol.
D'accord.
J'ai parlé de Monsieur Kohen qui habite à Modine. C'est pas sa semaine où il bosse au Beth Amikdash. Son boulot, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif.
Ça voudrait dire que pour être kadosh, il faut suivre les règles du Kohen Gadol.
Ça veut dire que le Kohen Gadol, c'est un ish kadosh, c'est nachon. Ça veut dire que pour être kadosh, tu n'es pas obligé de devenir Kohen Gadol, parce qu'il y a la kedusha de la keuna qui est séparée pour les kohanim. Par contre, effectivement, si tu ressens le besoin d'un surplus de kedusha, c'est-à-dire que là où toi tu es, tu as envie de plus, tu peux prendre sur toi temporairement une kedusha genre de Kohen Gadol, ça s'appelle la Nézirut. La Nézirut, mais ça on verra quand on arrivera à Parashat Nassau dans le livre de Bamidbar. Je ne peux pas t'en dire plus maintenant, c'est dans le livre de Bamidbar. C'est-à-dire, bientôt.
Le Kohen simple, on
les appelle
dans la Torah les
Kohen
idiotes.
Pas idiote et là idiot.
Ah, idiot, ah, il y a une petite différence.
Ben oui, les idiots ce sont. Voilà, et idiot ça veut dire ça. Ok? טוב, ולקחת את הבגדים והלבשת את הארון, את הכותונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן, ועפדת לו בחשב האפוד, ושמת את המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על מצנפת, ולקחת את השמן, את שמן המשחה, ויצקת על ראשו ומשכת אותו. Pourquoi est-ce qu'on lui met de l'huile après l'avoir habillé de tous les vêtements, pourquoi on lui met de l'huile sur la tête?
Parce que l'huile c'est comme une séparation.
נכון, השמן. C'est ce qui fait la différence. Donc, qui est-ce à qui on met de l'huile sur la tête? Au Kohen Gadol et au roi. C'est ça? Comment est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il a été huilé sur sa tête?
Il est moine.
Oui, mais pas en français, en hébreu. Il est Mashiach.
Et le Mashiach sera moine.
Ben voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Mashiach. Parce qu'il est roi.
Et non, parce qu'il a de l'huile sur la tête.
Mais pourquoi il a de l'huile sur la tête? Parce qu'il est roi. Ok? Pas parce qu'il est grand rabbin. Donc le Mashiach, ça ne doit pas être un grand rabbin. Il peut être aussi un Talmid Chacham, bien sûr, ça serait très bien.
Mais Kadosh, on parle de
Mélère,
le roi.
Ça dépend.
Bah,
tu veux des exemples?
On
a eu plein d'exemples de Melachim qui n'étaient pas Kedoshim.
Non, mais dans l'idéal.
Bah évidemment, mais dans l'idéal, toi aussi. Je te rappelle que dans l'idéal, Kedoshim Tihu ki Kadoshani. C'est-à-dire que toi et moi aussi, on doit être Kadosh.
Alors, ça veut dire qu'on doit
prendre
sur soi
là, ouais. Non. Alors, t'es pas obligé de vouloir atteindre le niveau du Kohen. Non, mais tu dois être toi Kadosh. Comment tu veux devenir Kadosh? Messilat Yesharim, de A à Z. Une fois que t'as fini, t'es Kadosh.
C'est pas nous. On l'applique, quoi.
Ah bah évidemment. Évidemment.
On est en train de faire des amis chez Chabad, nous disons que.
Tu vois.
Que c'est pas forcément un grand rabbin.
Mal à la sorte.
La
question était je vais me faire des ennemis chez les Chabad en disant qu'il ne doit pas forcément être un grand rabbin.
Ou si tu leur dis.
Dai le Hakima Beremiza. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui ai écrit la Torah. C'est-à-dire. C'est pas moi qui ai écrit le Talmud et c'est pas moi qui ai écrit la Halakha non plus. J'ai demandé, ils m'ont pas laissé. Donc, malasot que dans la Torah est marqué Somtasim Alecham Melech. C'est pas de ma faute que dans le Talmud, quand on nous parle de Melech HaMashiach, on nous parle de Melech HaMashiach. Et c'est pas de ma faute non plus que dans la Halakha, le Rambam va nous enseigner Ilchot Melachim ou Milchemotehem et va nous donner la définition claire de ce que c'est un Melech. Et mal à Assot que pour le moment, peut-être qu'il va revenir demain et que tout va changer, mais que pour le moment, le Rabbi Lubavitch, il n'avait ni dans sa main le contrôle de la monnaie, ni le contrôle de l'armée. Et donc, eh bien, il ne possède pas le statut de Melech al-Pi al-Halakha. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un grand sadique, mais Melech, ce n'était pas. Mal à Assot. La vie est dure.
J'ai pas entendu ce que vous avez expliqué plus tôt sur le pourquoi lui.
Parce que ça fait la différence.
Moi, je ne crois pas que ça fait la différence.
Et là?
Je crois que l'huile ne se mélange pas avec elle-même, elle est différente des autres huiles.
C'est ce que je voulais dire, tu as raison, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimé. L'huile a une particularité différente de celle de l'eau. Physiquement, elle ne se mélange pas à elle parce qu'elle a un statut différent. C'est-à-dire? Ça ne veut pas dire, Agave, qu'elle est meilleure ou moins bonne. C'est-à-dire? C'est différent. Il y a un statut différent. Bon, la question par contre qui se pose, c'est qui fait tout le boulot pour les Kohanim? Qui leur met les vêtements? Qui leur met la Kedusha? Qui
Eux-mêmes, non?
Ben, justement, non. Là, on n'arrête pas de dire, et tu leur feras ça, et tu leur feras ça, et tu leur feras ça. Qui?
Peut-être leur préparer les vêtements.
Qui?
Les Lévim.
Les Lévim. C'est ce que j'aurais pensé. Mais sauf qu'à ce moment-là, il aurait dû avoir marqué au pluriel. Qui fait tout le boulot là? Qui est cette personne dont on ne prononce pas le nom dans la paracha, mais qui fait tous les boulots? C'est Moshe, évidemment que c'est Moshe Rabbeinu. Je te rassure. Tous les jours, Moshe il se lève pas avant Aaron pour aller l'habiller.
Baro.
Non seulement il n'est pas éternel, et même quand il est vivant, c'est pas que tous les jours il va aller mettre le pantalon à Aaron. La première fois, l'intronisation des Kohanim se fait. Mikoach Torat Moshe. Et vous vous rappelez ce qu'on avait déjà expliqué de la différence entre Torat Moshe et Torat Aaron? Que la Torah de Moshe, elle est intransigeante, alors que la Torah de Aaron, elle veut même aller vers le fauteur, quitte à fauter avec lui, pour le sortir de là-bas. Et on a dit qu'une Torah qui serait que la Torah de Aaron, c'est très très dangereux. Pardon? Pourquoi? Non, on avait expliqué. Ça, c'est toi qui dis. Nous, on avait expliqué ça avant. C'est-à-dire dans la différence entre Parashat Terouma et Parashat Tetzavé. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait un spoiler par rapport à la Parashat prochaine. Donc la Torah de Aaron, si elle est seule, eh bien, elle est très dangereuse parce qu'elle peut nous faire fauter pour nous élever. Si on ne s'élève pas, ben, on reste dans la faute. Alors que. Et deuxièmement, ça voudrait dire que toute la Torah, c'est-à-dire mon lien à Dieu d'après Aaron, serait de corriger la faute. Ça, c'est un problème. Moshe, lui, il a une Torah idéale, où tu ne fautes pas. Et donc, il est fondamental que celui qui donne la force à Aaron, c'est Moshe. C'est-à-dire, ok, il y a un pragmatisme à avoir, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal doit être l'idéal. Tout en sachant qu'il peut y avoir un petit écart à faire. Ok ? C'est-à-dire que qui nous permet dans la halakha, qui donne la prérogative au prophète de transgresser la Torah quand il faut, c'est la Torah de Moshe. Ok ? Ce qu'on appelle Horat Shah Shel Navi. Oui.
Qu'est-ce qu'a dit le Kohen Gadol quand Moshe était niftar ?
Ben lui, comme un grand.
Ah, lui, voilà.
Mais pas seulement quand Moshe niftar, le lendemain de l'inauguration, Aaron, il s'habillera tout seul comme un grand. Ok. וחגרת אותם באבנת אהרון וחגרת אותם אבנת אהרון ובנה וחשבת להם מגבעות וחבשת להם סך המגבעות והייתה להם כאונה לחוקת עולם ומילאת יד אהרון ויד בניו והקרבת את פר לפני אוהל מועד ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר ושחטת את הפר לפני השם פתח אוהל מועד. Donc les Kohanim, on les intronise dans l'histoire, et pour cela, em somchim et yedem à la part. Ça veut dire quoi? Ils font peser de tout leur poids sur le bœuf qui va être sacrifié. Lama.
Pour faire corps avec l'âme.
Pour savoir que c'est ce qui aurait dû leur arriver.
C'est
ce qui aurait dû leur arriver. Ils mettent leur volonté dans ce sacrifice. Une fois qu'ils ont mis leur volonté, alors, la partie animale peut être remplacée par un animal.
Je comprends pas.
Oui.
Je comprends pas que quand quelqu'un fait une amena khatat, il dit que c'est ce qui aurait dû lui arriver. Le problème, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre ?
Tachles. Hein ? Bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre ? Et même toi qui amènes un korban nedava, pas un khatat, t'as un korban de remerciement, ou alors un korban bekef. Tu dois quand même faire smicha à la korban. Nous dit le premier verset de la paracha de Vayikra. Adam, le deuxième, c'est le deuxième verset de la paracha de Vayikra. Adam qui akriv mikem korban lachem. Nous dit Rashi, be korban nedava katuv medaber. Donc on parle ici d'un korban qui n'est pas nécessaire à cause d'une faute. Donc pourquoi est-ce que je dois faire ma smicha en pensant que c'est ce qui aurait dû m'arriver quand il ne s'agit pas d'une faute? Eh bien, tout simplement parce que naturellement, j'ai reçu la vie en cadeau. C'est naturel que je la rende.
Mais pas de ta propre initiative.
Pas de ma propre initiative. Qui t'a dit ? La Torah. Le chidouche de la Torah, c'est de dire que je ne veux pas de sacrifice humain. Et on voit ce chidouche depuis Akedat Yitzhak. Et quand je parle de chidouche, il faut bien comprendre que c'est un chidouche. C'est-à-dire, quand tu lis le verset « Adam qui akriv mikem korban Hashem », ça veut dire un homme qui voudra sacrifier d'entre vous un sacrifice. Ça fait froid dans le dos. Alors, la suite du verset, c'est « Min abakar min atzon takrivu et korban chem ». Vous prendrez du bétail. Mais dans le monde entier, dans toutes les cultures, il y avait des sacrifices humains. C'est-à-dire que l'humanité, dans son intégralité, s'est éveillée à la conscience qu'il fallait donner ce qui était le plus cher à notre vie au Dieu. En général, le sacrifice humain, c'était le premier-né. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est borderline, uniquement les pourris qui étaient à côté de nous. Non, tous les êtres humains pensaient qu'il fallait faire ça. Le chidouche du judaïsme, c'est de dire « Nachon, je comprends d'où ça vient, parce que tu es conscient que tu as reçu, donc tu me rends. Ce qui est le plus cher à tes yeux, c'est ton premier-né. » Mais moi, je vais t'expliquer que non. Dans l'homme, il y a deux dimensions. Il y a la nefesh habehemit et la nefesh haeloït. Et cette nefesh habehemit, elle peut être remplacée par une behema. Cette partie animale qui est en toi, tu peux la remplacer par un bœuf. La partie divine qui est en toi, elle s'exprime dans ta volonté. Et donc, une fois que tu mets tes mains dessus, tu exprimes que ta volonté, elle est là-dedans.
Pourquoi savoir tuer sa partie animale ? Hachem, il nous a fait avec nos deux parties.
Non, justement, tu ne la tues pas, tu tues un animal. Parce que je dois les akriv et anefesh abehemit sheli. Les akriv pour qu'elle fasse partie maintenant de quelque chose de plus grand.
Voilà, donc, c'est pas la,
c'est pour ça que moi, je suis toujours là.
Oui.
Le korban, il me permet d'élever la chose.
D'élever la chose.
D'élever la chose. Voilà. Korban, milachon, kirouv, leit karev, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ok ? Beseder. Et n'oublie pas qu'il y a quand même des dimensions dans ma nefesh habehemit que je dois, oui, détruire complètement.
Détruire ou transformer ?
Non, non, il y a des parties que je dois détruire. Il y a des parties que je dois utiliser. Il y a des parties que je dois détruire. Ta nefesh habehemit nous enseigne l'Admour Hazaken dans le Tanya, au chapitre 6, que la nefesh habehemit, elle est composée de 4 clipotes, de 4, on va dire, écorces. 3 d'entre elles, tu ne peux rien y faire. Et il faut s'en débarrasser. Mais il y en a une, la dernière, qui s'appelle Klipat Noga, qui est parvée, qui est ni bonne ni mauvaise, qui peut te faire tomber dans le mal, ou alors qui peut, que tu peux, grâce à elle, t'élever encore plus haut. Donc celle-là, il faut la transformer, il faut l'utiliser à bon escient. Mais les 3 premières, laisse tomber.
C'est quoi, par exemple, concrètement ? J'aime bien la chose.
Tu veux du concret ? C'est le grand nuage, le vent tourbillonnant et le feu dévorant. Voilà, amuse-toi avec ça. Et si tu veux plus d'explications, lis le premier chapitre du livre de Yechezkel. C'est dans un livre intéressant qui s'appelle « Le Tanakh, amuse-toi ». Mais ça a l'air. « Veikravta et apar, velakarta midam apar, venatata al karnot amizbeach beetzbaecha, veet kol adam tishpoch el yesod amizbeach. » Bon, là, on rentre dans du glauque. On rentre dans du gore. On rentre dans du sang. Bon. Mazé Adam. Mazé Adam.
Dame, le sang ?
Ouais.
C'est une
nefesh. Adam ou un nefesh, que tout va Torah. Zah Chayut. Donc, quand on te dit que tu es mashpritz, le sang sur les karnot à Misbéar, sur les coins du Misbéar, ça veut dire que tu veux imprégner tout de Chayut, de vie, de vitalité. Ok ? ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת חלב אשר עליהם והקטרת מזבחה ואת בשר הפר ואת אורו ואת פרשו ותשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. Ça répond aussi à ta question, parce que ces corbanotes, en l'occurrence, c'est des chataot. C'est-à-dire, en quoi ils sont chatat? On est, mais il faut suivre. Dans le verset Yud Dalet. Pourquoi est-ce que c'est khatat ? Pourquoi l'intronisation des Kohanim demande un sacrifice expiatoire ? Quelles fautes ont-ils commis ? Aucune. Mais les Kohanim représentent qui ? Les Bnei Israël. Ils font le lien entre les Bnei Israël et Dieu. Pourquoi il y a besoin de Kohanim ? À la base, ça devait être qui ?
Les Bechorot.
Donc, s'il y a des Kohanim, c'est qu'il y a un bug au niveau des Bnei Israël. Or, les Kohanim sont censés être les représentants des Bnei Israël. Que quoi ? D'où j'ai vu que les Kohanim, ils ont remplacé les Bechorot. T'as raison, je ne l'ai pas encore vu. Je le verrai dans le livre de Bamidbar. Et on n'a pas le droit de faire ça, mais moi, j'ai le droit. Après, tu te rappelles, c'est le klal qu'on a mis en place. C'est que vous n'avez pas le droit de faire référence à des versets qui n'ont pas encore été lus, mais moi, j'ai le droit de tricher. Ok ? Bekitzo. Oui. Ben oui, c'est Moshe qui fait. Après, ça sera... Non, ça sera les Kohanim. Pour l'intronisation des Kohanim. Mais qui va faire ces Korbanot après ? Ça sera les Kohanim. Non, qui ? Après, quand un juif, il amène un Korban Khatat, qui fait le Korban ? Un Kohen. Qui c'est qui ? Quick, la BMA. Tu dis que Shrita Kshera Bezar. Oui, d'accord, mais à condition qu'il soit Meyuman, machin, dans les faits, qui c'est qui le fait ? C'est les Kohanim.
Parce qu'à un moment, jusqu'à présent, on dit que tout qui s'adresse à Dieu, c'est Aaron
et sa descendance. Encore une fois, on s'adresse à Aaron et sa descendance, mais quand il s'agit de faire l'inauguration, on a dit que ça vient Mikoach Moshe. Donc pour l'instant, celui qui fait les korbanot, l'intronisation. Pour l'intronisation, c'est Moshe. Demain, ça sera Aaron ou Banav. Ok ? Agav, ne serait-ce que pour leur montrer comment on fait. D'accord ? Vet besar apar vet oro et dirso disro baesh michutz amachanecha tatou. ואת העיל האחד תיקח וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל ושחטת את העיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב ואת העיל תנתח לנתחה ורחצת קרבו וקרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו והקטרת את כל העיל המזבחה עולה הוא להשם ריח ניחוח אישה להשם הוא מוגע כמו שעשיר תוסה ריח ניחוח ריח ניחוח פה כי? פה הקדוש ברוך C'est une odeur qui lui rappelle quelque chose. Quand est-ce qu'on a vu que Kadosh Baruch Hu Non. 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 Quand est-ce qu'il a eu Reach Nichoach? Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Noir? Il est sorti de la Teva. Il a fait les Korbanot. Et ça a fait Reach Nichoach. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit Je ne veux plus détruire le monde. Donc à chaque fois que tu viens faire un korban, en fait, l'objectif du korban, c'est Shlemut HaOlam. Et ça, il faut bien comprendre que c'est fondamentalement différent de la tefila. On a l'habitude de dire que les korbanot, ils sont à la place de la tefila, que la tefila, c'est à la place des korbanot. Alors, oui et non. On a déjà étudié dans nos cours sur la tefila le Shabbat après-midi que c'est vadaï que les korbanot, la tefila, elle ne remplace pas les korbanot parce qu'à l'époque des korbanot, il y avait aussi de la tefila. Donc c'est pas que on a arrêté ça, on a commencé ça. C'est que à l'époque des korbanot du Beth Amikdash, la tefila elle était spontanée quand tu avais besoin. Et après la destruction du Beth Amikdash et l'arrêt des korbanot, on a donné à la tefila un aspect korbanique, c'est-à-dire à des moments donnés. Ok ? Mais la tefila vient demander un changement du monde, alors que le korban demande un maintien du monde. Ok ? Ça n'a rien à voir. Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, nous dit pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de faire des korbanot ? Lama.
C'est pour nous. C'est pas pour nous-mêmes.
Là, on a dit c'est pour Dieu. Nous dit le Rambam, Pashut, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir en Égypte. Comment est-ce qu'on sert Dieu ? On fait un korban à Apis, Osiris, Ra, Anubis et autres Sekhmet et Hathor. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le panthéon égyptien quand même. Donc on était habitué dans la Avodah Zara de faire des korbanot aux dieux. Donc on fait des korbanot à Yud Kei Vav Kei maintenant.
C'est bien à notre niveau. C'est pas au niveau de
Pardon ? Non, pas que. Pas que. T'imagines ? Si à chaque fois qu'ils font un korban, ils sacrifient un être humain, il n'y a plus d'esclaves. Non, deux secondes. Il y a le korban du Bechor pour rendre ce qui est le plus cher à mes yeux. Maintenant, j'ai fait mon dû. Je ne vais pas non plus tuer toute ma famille. Ils ne sont pas non plus idiots. Ce n'est pas des idiotimes. C'est peut-être des idiotes, mais pas des idiotes. C'est-à-dire, mais ils faisaient aussi des korbanotes d'autres choses. D'accord ? Donc, nous, on a vu des korbanotes chez les Goyim, Ovda, Avodah Zarah. Et bien, maintenant, on ne fera plus aux différentes divinités. On fera à Yudke Vavke. Ben évidemment que tu n'es pas convaincu. Parce que ton âme spirituelle te dit comment ? Qu'est-ce que j'apprends ?
Non, mais c'est
Est-ce qu'il serait simplement un copier-coller de la Avodah Zarah ?
C'est ça qui est choquant.
Hein, c'est choquant.
Bah oui.
Ça existait déjà avant
que tu en équipe. Oui, mais quand même.
Abraham et...
Ah. Donc toi, tu amènes. Toi, tu amènes la Kushia de Rabbi Moshe ben Nachman. Tu vois, il est toujours là. De Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, qui répond au Ramban et dit « Ah, comment tu peux dire ça ?»« Aré Adam Arishon écrive Korbanot, ve Shem, ve Kain ve Evel, ve Noach, ve Makulam Ovda Avodah Zara ?» Tu vois bien que les gens qui n'étaient pas du tout Ovda Avodah Zara et qui n'avaient pas encore vécu la Avodah Zara, ils faisaient déjà des Korbanot. Donc comment tu peux me dire que les Korbanot, c'est parce que on a vu ça chez les idolâtres ? Réponds. Rabbi Avraham ben Arambam, Vechi Abba Amar Sheze Atam Ve'en Bilto. Quoi ? Mon père, il a dit, quand il a dit que c'était par rapport à l'idolâtrie, il a dit qu'il n'y avait que ça comme explication. Donc le Rambam, il a raison. Et le Rambam, il a raison aussi. Seulement, viens, on mixe les deux. Oui, nous, on fait des korbanot quand on sort d'Égypte parce que c'est ce qu'on a vu en Égypte. Mais les Égyptiens, et pas que les Égyptiens, les humains, Bichlal, d'où ils sortent ça ? De Adam, Noach, et ainsi de suite. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les goïms, ils ont gardé ce sod, ce secret du korban qui avait été mis en place par Adam Harishon. Des fois, ils l'ont rendu un petit peu avec plein de touma. Et nous, on l'a ressorti de l'Égypte et on l'a ramené à sa dimension idéale.
C'est un col. Je suis un peu étonné parce que, en fait, on a plein de laves d'interdiction de faire des choses que les païens faisaient en Égypte, justement. Parce que les Égyptiens faisaient ça, nous, on n'a pas le droit de le faire.
Nous, non, mais attention, nous, on n'a pas le droit de le faire, mais va jusqu'au bout. On te dit, dans les lavim, on te dit, non, on n'a pas le droit de le faire, donc on fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a toujours le contre-pied. Bidiouk, c'est l'exemple que je voulais te donner. L'otakif peatroshra. Parce que eux, ils faisaient. Donc toi, tu fais un truc qui est différent de ce que eux, ils faisaient. Tu te laisses pousser. D'accord ? Ben pareil, dans nos korbanot, c'est pas exactement la même chose que chez eux. Les halakhot sont différentes. Ok ? Alors, tu vas me dire qu'on n'a pas.
C'est pas le contraire de ce qu'ils font.
Mais c'est pas forcément le contraire, c'est pas toujours le contraire ce qu'on fait nous. C'est pas toujours le contraire. C'est-à-dire ? Bekitsour, donc voilà, les korbanot, c'est pour garder l'équilibre du monde.
Les korbanot, c'est une demande d'Hachem, c'est pas une demande du peuple.
D'accord ? D'accord, tu vois bien. הנה. ולקחת את האיל השני ושמח אהרון בניו את ידיהם על ראש האיל ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתת אל תנוך אוזן אהרון ואל תנוך אוזן בניו הימנית ואל בוין ידיו הימנית ואל בוין רגליו הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב. Donc tu prends du sang, tu le mets sur le lobe de l'oreille droit de Aaron et de ses enfants, sur le pouce droit de Aaron et ses enfants, et sur le gros orteil droit de Aaron et ses enfants.
Les extrémités.
Ouais, mais alors pourquoi les droits ?
Ah, pourquoi les droits ?
Alors, avant de vous donner une réponse, sachez que c'est ce qui est également marqué dans la Rig Veda.
Dans la quoi ?
La Rig Veda. Un des textes les plus anciens de la mythologie hindoue. Dans les Vedas. Okay. Et là-bas aussi, on te dit que les prêtres, ils se mettaient du sang des sacrifices sur l'oreille, le pouce et le gros orteil droit. Est-ce qu'on a piqué ça des hindous ?
Non, c'est Abraham qui avait donné des secrets à ceux qui sont...
Oh, c'est pas des personnes à piquer. Que les gens en sont arrivés à cette conclusion-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre du sang ? Le sang, on a dit, c'est achayut. C'est la vitalité. Et on va les mettre sur les extrémités, mais qui ne sont pas seulement les extrémités. On va les mettre d'abord sur le côté droit.
C'est le bien.
C'est le bien.
Le droit.
Et le gauche, c'est le mal.
Enfin, c'est simpliste, c'est vrai. Mais... Non, le précède, alors, plutôt.
Ouais, on a dit pas le politique, ici. Non, c'est pas une question de bien ou de pas bien. Ah, chesed, ça ne veut pas dire que c'est bien. Din, c'est pas mal.
Oui, non, c'est
ça. Elle, vous connaissez tous, évidemment, ce symbole chinois, noir et blanc.
Le yin et le
yang. Le yin et le yang. Donc le droit, c'est quoi ?
Le yin.
Et le gauche, c'est le yang. Et c'est quoi ?
Le
ça représente quoi ?
C'est l'unité. La...
Oui, non, mais chacun représente quoi ? Ensemble, c'est l'unité, mais chacun, ça représente quoi ? Il y en a un qui est l'actif et l'autre qui est le passif, le mekabel. Un qui est anoten, l'autre qui est mekabel. Dans la tradition juive et bichlal, la droite, c'est l'action. La majorité des gens sont droitiers. Bon, ce n'est pas mon cas, mais la majorité des gens sont droitiers. Le droit, c'est celui qui agit. Le gauche, c'est celui qui si tu veux, qui reçoit. Ok ? Nous, tu ne fais que renforcer de l'eau à mon moulin, car aujourd'hui...
Hein, ils sont créatifs.
On n'a pas entendu. On a dit qu'en général, les artistes, on a fait des études qu'ils utilisent plus leur cerveau gauche. Mais je te rappelle que le cerveau gauche, c'est lui qui influence sur quelle partie du corps ?
La droite.
Sur la droite. Eh oui. Eh oui, si on fait de la neuroscience, il faut y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire. Donc non, c'est, on parle ici de l'action, de la créativité, ça marche aussi, de l'action. Donc c'est-à-dire qu'on va donner la chayout à ce qui va être la capacité à agir. Ok ? Les extrémités du corps à droite qui sont la capacité à agir. Donc on veut donner de la vitalité à l'action. Ok ?
Est-ce que l'oreille agit ?
L'oreille, elle agit, c'est la première qui agit. Elle reçoit toutes les informations.
On a fait la différence entre...
Nahon. C'est-à-dire que même dans ton oreille, tu as celui qui a reçu et qui va en faire quelque chose, et celui qui a reçu et qui ne va pas forcément en faire quelque chose.
Il n'y a pas seulement ça. L'oreille, c'est aussi.
Le izun. L'équilibre. Le ozen s'appelle ozen parce qu'il y a le izun. Nahon. Velakarta minadam, asher al misbeah, mishem en amishra, veizeta al aaron, veal begadav, veal banav. ועל בגדי בניו איתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו ולקחת מן העיל החלב והעיל והעלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלב אשר עליהם ואת שוק הימין כי איל מילואים הוא וכיכר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני השם ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו ונפת אותם תנופה לפני השם. C'est la partie musculation de Moshe Rabbeinu, puisqu'il doit leur donner non seulement tous les éléments qu'ils vont devoir manger dans deux secondes, mais maintenant Moshe doit les anef otam. Mazé ve nafta otam, exactement. Il doit leur faire un petit tioul dans les airs. Bon, je sais pas combien il pesait à Aaron avec tout l'attirail, plus les morceaux de corban dans les mains. Hein, Moshe, Mister Univers. Velakarta, hein? Malanifotam. À quoi ça sert quand tu dis, et il y a des gens qui quand ils font le chemin, ils font comme ça. À quoi ça sert d'aller dans toutes les directions? Pourquoi tu dis, quand tu dis Hashem Echad, tu dis Be Arba Kanfota Aretz. Asvenafta autant pour que la Kedusha qu'il va représenter, elle se répartisse dans le monde entier. C'est bien ? Velakarta otam yadam veiktarta mizbecha et ala ola vela reach nichoach lifnei Hashem, ishehu l'Hashem. Oui ?
Kavdalet,
je vous en supplie. Vesamta akol al kape Aaron val kape banav. Ma baya. Il faut que Moshe mette dans les bras de Aaron et de ses enfants les différentes parties des du corban qu'ils vont devoir manger.
Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ménifie quoi ?
Tout ?
Non, mais tu m'as dit il ménifie Aaron et ses enfants.
Non, j'ai dit il ménifie Aaron avec ses morceaux qu'il tient dans ses mains et ses enfants, chacun à son tour. Hein, il ne va pas tous les poings, il n'a pas 50 bras. Il les porte, il les soulève. Oui. Aaron porte ses morceaux de viande. Et Moshe porte le tout.
C'est bien qu'on les apprend.
Voilà. Essayez à la maison avec vos enfants. Prenez-en un qui est à Aaron, l'autre qui est...
Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.
Attends. Otchnia. Mais la carta est très aimée. Mi'ay la milouim, asher la Aaron, ve nafta oto tenufa lifne Hashem, v'aya lecha lemana. Achazé.
Achazé pour Aaron.
Non. Ze lecha. C'est pour Moshe. Moshe, c'est lui qui va manger le chazé. Chazé, c'est un makom chez la lève. Donc ça veut dire que toute cette avoda, on a dit, mekora betorat Moshe. Ok ? Il n'est pas seulement celui qui met en place, mais il prend aussi une part active dans l'essentiel de cette Torah-là.
Non, moi, je comprends quand on mange un chazé d'un poulet, mais un chazé d'un rat,
c'est beaucoup, hein ? Hein, c'est beaucoup. Mais attends, il n'y a que ça qui te dérange. Mais qui d'achta et trazé à tenoufa, va être choc à terouma, à cher unaf, va cher uram, mais il a milouim, à cher la aaron, va cher le banav. Va ya, le aaron, le banav, le chocola, met bene Israël, qui trouma, ou trouma, yé, met bene Israël, misifre, chalmeem, ou troumatam, la hachem. C'est-à-dire que ce qu'on va faire maintenant, ils vont devoir faire tout le temps dès qu'on leur fait une trouma. Deux secondes. Ah, ben justement, mon ami, ils doivent à 5 manger. Quoi ? Non, pas le bœuf, parce que le bœuf, et il va être brûlé, on l'a dit, mais El Amilouim, un bélier. Il y a combien de kilos de viande dans un bélier?
Une trentaine de kilos.
Bon, ça, c'est un petit bélier. Hein. Un bélier, c'est un peu plus que 30 kilos, mon ami. Alors, tu lui as enlevé la peau, tu lui as enlevé les os, d'accord? Combien il reste de viande?
Nous, on vient de la ville, mais t'as qu'il vient de la campagne.
C'est ça, c'est ça. Non, je pense pas. Alors, justement, on va voir ce qui se passe. Mais a priori, ils doivent tout manger. Après manger, sinon tu vas faire quoi? Tu vas le brûler? Alors, je sais pas, disons qu'il y a 40 kilos de viande. Ça fait combien par personne?
Ça fait beaucoup trop.
Hein, ça fait beaucoup trop.
Les femmes de quoi les mettent pour manger?
Non, pas ici. Pas pour ça.
C'est pour chaque bélier qui vont.
Pour un bélier, il n'y en a qu'un ici dans l'Aïla Meloui.
Ça fait 8 kilos.
Ça fait à peu près 8 kilos de viande. C'est quand même un bon petit repas, hein, sympatoche. D'autant plus.
Mais ils ont combien de temps?
Ben, ils ont une journée. Enfin, ils ont 3 repas. Mais j'ai oublié de vous dire qu'avant de manger le corban, ils se doivent de ne plus avoir faim.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que pour pouvoir manger un corban, il faut que tu te sois tapé un falafel avant.
Pour que ce soit de la gourmandise, quoi.
Au contraire. Non, pour que tu ne manges pas le corban parce que tu en as un besoin. Mais pour que tu manges le corban parce que c'est une valeur en soi. Et comme la ficomane. La ficomane, tu le manges alors que tu as plus faim, justement parce que c'est zéhir la corban. Maintenant, c'est quoi cette dimension que le korban doit être dégusté à la sova, que le korban doit être mangé alors que je n'ai plus faim. Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire ça? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Zakou Baruch.